C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, on est en édition estivale. Là, on est presque rendu là.
L'été est arrivé avant que...
L'été est arrivé solide cette semaine. Il va nous rester une émission la semaine prochaine et l'autre. Et après ça, un congé pour l'été.
Ah.
Mais la bonne nouvelle, Alain, on revient à l'automne.
Oui! Yeah!
Alors, on nous a assez aimé pour nous garder une autre année.
On va le prendre comme ça.
Alors, donc, on va vous tenir au courant. On a aujourd'hui les gens de Kia qui vont être avec nous. Régent Fureuil, Régent qui est le directeur national de la formation du côté de chez Kia. On va évidemment parler de tout ce qui s'en vient parce qu'il y en a beaucoup du côté de chez Kia.
Ah oui.
Alors, on va également parler... Oh! Hey, cette semaine, attends un peu. On ne rit plus. Là, si les gens me voyaient, ils pourraient m'imaginer en en tox.
Ah oui, c'est vrai.
Bien monté.
Est-ce que je dois te vous voyer?
C'est cela. Oui. Alors, j'ai essayé une Rolls-Royce Ghost cette semaine. Je vais vous en parler en fin d'émission. C'est quelque chose. Hein? C'est différent. C'est unique. Et... Je pense pas j'en aurai une, mais bon. Alain, tu vas nous parler du Outlander dans un registre beaucoup plus réaliste.
Oui, le nouveau petit VUS de Mitsubishi. Ben, petit moyen VUS de Mitsubishi.
Ouais. En fait, c'est le plus grand de Mitsubishi.
C'est aussi le grand, t'as raison.
Donc, on va le situer d'ailleurs sur le marché. Et évidemment, pour commencer l'émission, ben comme à chaque semaine, nos actualités. Qu'est-ce que t'as dans ton panier, toi, cette semaine, Alain?
J'ai une grande première pour vous. Ça se passe à San Francisco. C'est la California Public Utilities Commission, qui est dans le fond la voirie de San Francisco, j'imagine.
Ça ressemble à ça, oui.
Il va permettre à la société Cruise, qui est une filiale de General Motors, dans laquelle Honda participe également, de lancer le premier projet pilote de taxi sans conducteur, réellement sans conducteur.
Ouais, parce que les projets pilotes qui, aux États-Unis, corrige-moi si je me trompe, ils sont ils sont autonomes, mais il y a quelqu'un au volant au cas où, c'est ça?
À ce jour, en Californie, et peut-être en Arizona, là, parce que ça varie un peu, mais il y a 8 sociétés qui ont le droit de tester leur technologie de conduite autonome dans l'ouest des États-Unis.
Okay.
Tu sais, il y a Waymo chez Google, il y a Aurora, qui est une compagnie qu'on connaît moins, puis il y en a d'autres autour. Là, évidemment, des constructeurs, puis il y a des startups. Il y en a pour tous les goûts. Mais dans tous les cas, les véhicules testés doivent compter sur un humain derrière le volant pour s'assurer que tout baigne, parce qu'évidemment, on veut pas...
On veut éviter ce qui est arrivé... à une compagnie où est-ce que c'est à Philadelphie qu'on a frappé une cycliste, je pense.
C'est exactement, c'est que c'est pas l'objectif zéro accident n'est pas toujours atteint. Ce que Cruise a obtenu, c'est le droit d'offrir un service de taxi aux gens de la grande région de San Francisco sans la présence d'un conducteur de secours. Autrement dit, personne pour prendre le volant si quelque chose d'anormal se produit. Il y a comme un bonus, c'est un peu bizarre, mais en échange de cette possibilité, le service doit être entièrement gratuit pour les utilisateurs, donc les gens qui veulent emprunter ce service de taxi-là n'auront pas à payer pour courir le risque, n'est-ce pas, de se rendre à destination.
Là, la question est de savoir, est-ce qu'on va rejoindre les gens audacieux ou les gens cheap?
Ben, un petit peu des deux. Pas tous les gens, par contre. Cela dit, Cruise dit que ils ont 300 voitures autonomes sur la route en ce moment. Ils ont parcouru peu près 3 millions de kilomètres.
Okay.
Là où c'était déjà permis de le faire, donc dans la très grande région de San Francisco, et à Phoenix, en Arizona, justement, où elle circule, de façon supervisée, mais depuis un petit bout de temps. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, évidemment, à faire confiance à ce genre de technologie-là. Il y a un sondage qui a été publié récemment par l'Association américaine de l'automobile qui dit que 14% seulement des gens ont pleinement confiance, en tout cas disent avoir pleinement confiance dans le système entièrement autonome contre 54% qui disent avoir peur, donc craindre ou qui embarqueraient pas, en fait.
Il
y a un 32% qui est incertain, avec ces gens-là, peut-être qu'ils vont l'essayer, tu sais,
Moi, je pense que je suis dans le 32 pour le moment, là.
Ben, moi, j'essaierais. Je veux dire, dans un contexte urbain où on va pas trop vite.
Ouais.
Évidemment, il y a la sécurité autour. Pour ma sécurité personnelle dans une voiture, je serais pas trop embêté. Je me dis, au pire, tu sais, un accident d'accrochage, ça arrive même avec un conducteur humain.
Exact.
C'est plus ce qui peut arriver si la voiture a un accident avec quelqu'un d'autre. C'est cette partie-là qui serait plus embêtante, à mon avis.
OK. Intéressant.
Ouais.
Intéressant. Puis, Tesla va devenir une chaîne de restaurants, toi.
Oui. Ben, écoute, il y a du potentiel assez intéressant. Puis je pense qu'il y a une leçon à retenir par exemple, pour le circuit électrique au Québec pourrait peut-être en tirer une certaine leçon. Pas nécessairement appliquer la même stratégie. Mais la semaine dernière, Tesla a fait une demande au Bureau américain des brevets pour utiliser son logo de trois façons. Le fameux T, là, stylisé qu'on voit, qui représente Tesla, et les deux versions de son logo de Tesla écrites tout du long. Donc, serait stylisé dans un contexte alimentaire. Tesla a demandé l'autorisation d'utiliser les logos pour des services de restauration en libre-service, donc un comptoir, et un service de restauration pour emporter. Bon, évidemment, ça peut ne pas vouloir dire grand-chose. On ne sait pas ce que Tesla va faire avec
sauf
ça.
Sauf qu'en considérant le nombre de stations de recharge Tesla qu'il y a à travers l'Amérique du Nord.
Exact.
Mettons qu'on va venir, on va venir l'idée. Là.
Exact. Puis, de toute façon, Elon Musk a déjà tweeté dans les dernières semaines, pour ne pas dire mois, son intention. Il disait songer à installer au moins un restaurant de type drive-in avec même un service à l'auto en patin à roulettes quelque part à proximité d'une de ses stations de recharge, le fameux Supercharger, là, de la région de Los Angeles. Musk, de fait, en a rajouté il y a à peu près un mois. Il a tweeté qu'une nouvelle superstation Supercharger, justement, à Santa Monica, aurait justement droit à un diner rappelant les années 1950, donc comme dans le temps. Et il y aurait aussi une espèce de gros projecteur, une toile de fond ou une centaine de séquences de films, donc pas des films entiers, mais juste des bouts... Le film classique serait joué en boucle pour
la
les gens qui
se branlent. Dans le film Bullet, la poursuite dans le film Ronin.
Que des poursuites. ça serait moins
ça serait
bon.
La thématique.
Il y aurait de la suite dans les idées. Bon, évidemment, le fait d'avoir demandé un brevet pourrait signaler l'intention de reproduire ce modèle-là à grande échelle, et c'est là où ça devient plus intéressant pour nous. Il faut dire que quand on se branche, même sur les superchargers, on a quand même un peu de temps pour manger, pour faire autre chose.
Tu sais, il faut considérer qu'on a à peu près là 20 à 40 minutes, là, dépendamment à quelle vitesse vous voulez recharger puis combien vous avez besoin d'énergie. Ça donne le temps d'arrêter, d'aller se prendre une petite bouchée, de la manger puis de repartir. Là.
Puis Tesla ont de l'information, ont des données sur ce que font les gens quand ils se branchent parce qu'ils sont très axés sur le big data, disons-le comme ça. Et détail intéressant, le frère d'Elon, qui s'appelle Kimball, et le grand dirigeant et le principal dirigeant d'une chaîne de restaurants présente dans plusieurs États américains. Il y a peut-être un lien, il y a peut-être une histoire familiale à développer là où il pourrait avoir...
Je ne savais pas ça.
Il pourrait avoir des maillages, du réseautage et de la possibilité commerciale.
Alors, le duo Elon et Kimball sont à surveiller.
Un burger électrique au diner Tesla.
Il va sûrement avoir des VG Burger au menu, c'est sûr.
Ah, probablement, oui.
Probablement, absolument. Dans un autre ordre d'idée, Ford a finalement présenté son petit camion, le Maverick.
Oui.
Parce qu'on l'attendait, on avait vu des photos espions, on savait que ça arrivait. Ben là, finalement, on l'a présenté. En fait, pour le situer en termes de format, c'est le petit frère du Ranger. C'est un peu plus petit qu'un Ranger. Qu'est-ce qu'il y a d'équivalent sur le marché? Le Santa Cruz chez Hyundai sera un bel exemple. Mm-hmm. C'est un châssis monocoque, mais la grande particularité, c'est que ça arrive d'office avec un moteur hybride.
Ouais, ça, c'est une
alors, 2,5 litres, 4 cylindres, moteur à cycle Atkinson. Donc, on annonce 191 chevaux, 155 livres-pieds de couple, une boîte CVT, mais surtout 6 litres au 100.
Et pas cher non plus.
Et 25 900 $ comme prix de base, mm-hmm. donc pour ce modèle-là. Évidemment, il y a un autre moteur pour ceux qui veulent un peu plus de puissance, qui est un moteur 2 litres, 4 cylindres, qui fait 250 chevaux, 277 livres-pieds de couple, boîte à 8 rapports, c'est pas une CVT. Avec l'ensemble de remorquages en option, on peut amener jusqu'à 4000 livres. Pour donner une idée aux gens, là, une roulotte de 21 pieds, ça fait à peu près 4000 livres. Alors, quand même, pour un petit véhicule, bon, c'est une boîte de 4 pieds et demi. Hein, on parle pas là, mais pour beaucoup de gens qui ont pas besoin de gros, mm-hmm. Ça peut être. Mais puis moi, je pense que le prix va être un facteur important. Là. À 26 000 $, là, les gens qui hésitaient vont se dire, peut-être que c'est intéressant d'aller le chercher à ce prix-là. C'est un modèle qui va arriver quelque part cet automne. Les commandes, d'ailleurs, vous pouvez aller sur Ford.ca. Vous pouvez déjà configurer et commander votre véhicule là, si vous êtes dans le marché de faire un genre d'achat comme ça. Mm-hmm. Évidemment, selon les modèles, parce que là, il y a quelques modèles XL, XLT, Lariat, et il y a l'ensemble FX4 en route, comme on a les sur le Ranger. Ford, les classiques chez Ford. Mais il n'y a pas différentes longueurs de boîte, différentes. On a limité ça pour pas en faire trop. Il y a deux moteurs, oui, mais il y a une longueur de boîte et de l'équipement qu'on va varier selon les modèles. Avec, bon, on retrouve, par exemple, le système Sync, on retrouve un certain nombre d'aides à la conduite électronique, évidemment, indépendamment du modèle. La technologie Ford Copilot va être là avec l'assistance pré-collision, freinage d'urgence automatique, feu de route automatique, dont les principales technologies qu'on retrouve déjà dans d'autres produits Ford sont là. Et pour essayer de maximiser au niveau de la boîte qui est pas très longue, on a un système qui s'appelle le FlexBed. En fait, qui est une Ford appelle ça une solution d'organisation et de rangement. Les gens qui vont acheter le véhicule peuvent créer un espace de rangement segmenté qu'on fait à l'aide de planches là, ou de bois.
Panneaux qu'on insère.
Des espèces de panneaux. Donc, c'est des 2x4 ou des 2x6 selon le coin. Il y a des crochets d'arrimage 4 anneaux en D, donc qu'on peut attraper. Donc, on essaie de le rendre le plus polyvalent possible. Il y a deux prises 110 volts à 400 watts, l'une dans le plateau, l'autre dans la cabine, qui peuvent alimenter vos téléphones et vos objets électroniques, ordinateurs portatifs de tout genre, même des petits téléviseurs. Donc, comme on a un hybride, mm-hmm. ben, on a un peu d'énergie en réserve qu'on peut utiliser. Et on a même mis un arrimage pour mettre des feuilles de 4x8. Hein, les désormais célèbres feuilles de 4x8.
Les classiques, ben oui.
Qui coûtent d'ailleurs 300$ la planche par les temps qui coûtent. Non, j'en mets un peu, là. Ouais. Mais donc, on peut organiser le plateau pour quand même avoir un véhicule assez polyvalent. Donc ça va arriver un petit peu plus tard. Mm-hmm. Cet automne. Bon, et dans les autres modèles, on a présenté un peu en surprise, je dois l'avouer, le Kia Sportage 2023.
Ben oui, déjà.
Pas le 22, mm-hmm. On a sauté le 22. En fait, le 22 est le modèle qu'on a, qui va rester pour 22. Et 23, on va complètement ailleurs. D'ailleurs, je vous invite à annuelauto.ca. J'ai fait des petites nouvelles. Vous pouvez aller consulter. Mais c'est un modèle qui s'inspire clairement du modèle EV6. D'ailleurs, avec notre ami Régent, tantôt, on va en parler de chez Kia. On va glisser un mot là-dessus. Mais
Ça arrive vite.
D'ailleurs, on dit qu'on va présenter ce modèle-là quelque part. Le lancement en Corée, qui est le premier marché qui va avoir le modèle, est prévu quelque part fin de l'année 2021, début de l'année 2022, et ça sera un modèle 2023. On n'a pas encore donné de détails sur les motorisations, tout ça. On a montré des photos officielles via le site global, le site mondial de Kia, hier, et on a une console centrale, par exemple, qui est très ergonomique, très futuriste. On emprunte vraiment là des lignes qui ressemblent ou qui s'inspirent des modèles électriques qui sont sortis récemment, très épurés, une finition haut de gamme. Donc, chez Kia, là, on montre clairement qu'on veut monter en grade au niveau des modèles, parce que tout ce qui se présente de neuf chez Kia, de toute évidence, on monte de quelques crans au niveau de la qualité perçu. Là, évidemment, on n'a pas de prix, c'est beaucoup trop tôt, mais si on reste dans les prix qu'on a, par exemple, présentement pour un Sportage, c'est un modèle qui va définitivement attirer l'attention parce que c'est très beau. Ouais. C'est très beau.
On est loin du premier Sportage, disons-le comme
ça. Oh boy! Les premières générations de Kia, disons qu'on est un petit peu ailleurs. Ouais. Hein? On est un petit peu ailleurs. Non, on a fait beaucoup, beaucoup de chemin. Et on ose chez Kia, ce qui est souvent pas un trait de caractère, en tout cas pas des Japonais. Mm-hmm. Les Japonais sont reconnus pour leur conservatisme quand vient le temps de changer des modèles. Moi, je parle toujours en blague la théorie des petits pas. C'est très rare qu'on voit une révolution. C'est toujours une évolution.
Ben, mis sur des valeurs sûres systématiquement.
Bon, voilà, et c'est l'approche japonaise. Les Coréens, eux, n'avaient pas le choix, si on veut, se remettre au niveau des concurrents principaux, en ayant pris du retard parce qu'on n'est pas là depuis longtemps, ben la solution, c'est de dire OK, on va être avant-gardiste, on va présenter des produits qui vont faire jaser. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les modèles Kia sont très jolis, sont très, ergonomiques, mais le prix est abordable. Donc, on peut avoir du beau sans nécessairement que ça coûte très cher. Donc, je pense que c'est une approche qui a été payante pour les gens de Kia. Et on continue dans cette lignée-là. Alors voilà, c'était notre petite nouvelle de la semaine. Nous, on va prendre une première pause et après, on revient avec notre invité de la semaine de chez Kia.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
Alors, deuxième volet de l'émission, c'est le volet où on reçoit évidemment les invités de la semaine. Notre invité de cette semaine est directeur national de la formation chez Kia Canada. Il s'agit de Régent Furoy. Bonjour Régent.
Bonjour Benoît, ça va bien?
Ben ça va très bien, merci d'être là. Écoute, les choses bougent hein, chez Kia. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Il y a beaucoup de nouveaux modèles, beaucoup de changements. Si on commençait par les modèles qui ont changé un petit peu cette année, par exemple, si on regarde le Kia Stinger qui a eu quelques éléments, on pourrait commencer par parler de ce modèle-là. Donne-nous quelques détails, Réjean, là-dessus.
OK. Alors, Kia Stinger, comme on sait, en 2019, a gagné la voiture de l'année avec Ajax. Alors, c'est une voiture qui se vend encore très, très bien. On parle encore de 3,3 litres avec son moteur bi-turbo. On parle de 368 chevaux. Et certaines améliorations. On a une traction intégrale deuxième génération maintenant.
OK.
Alors, quand je dis deuxième génération, la traction intégrale pour le Stinger maintenant est pas seulement basée sur traction, mais sur performance aussi. Alors, le logiciel du système est vraiment... on a un focus sur la performance et la meilleure traction en tout temps, dépendant de ce que le client fait avec la pédale de droite.
Ah oui, ben là, évidemment, hein, ça, quand y en a qui ont le pied droit un peu plus lourd et d'autres qui l'ont plus léger, mais bon, c'est un véhicule qui est quand même performant là, quand on parle de 368 chevaux. Donc ça reste là. Un modèle qui est intéressant puis qui est nouveau cette année, c'est le Kia Carnival. Puis les gens se demandent le nom Carnival parce que ce nom-là existait dans d'autres pays avant. Chez nous, c'était le Sedona. Et là, le Carnival arrive. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça remplace le Sedona ou non, on a voulu donner un autre genre de vocation du côté de chez Kia?
Comme tu dis, le nom Carnival était donné à travers le monde, excepté pour le marché nord-américain. Alors, on remplace le Sedona avec le Carnival, mais c'est vraiment un véhicule qui a évolué beaucoup. Si on regarde l'extérieur au point de vue design, ça a un tape à l'œil, ça a un design DUS. Et on voulait donner à l'intérieur le plus d'intérieur que possible, la plus grande espace, beaucoup de commodités, beaucoup de technologies et du confort, là, on en met. Mais pas juste ça, pour la première fois avec notre Carnival, on peut prendre une planche contreplaquée de 4 par 8, enlever la version 8 passagers.
La fameuse planche de 4 par 8, Réjean. C'est
importante.
C'est la référence dans l'industrie automobile. Donc, si on enlève les sièges, on peut rentrer, on peut glisser une feuille de 4 par 8 en dedans.
Oui, et fermer le hayon à 100%.
OK.
Alors ça, c'est ce qui est très important au point de vue sécurité définitivement. Mm-hmm. Et puis, ça nous donne beaucoup de place. Alors, on a un 8 passagers. La deuxième rangée s'enlève au complet, si on veut. Et dans le 7 passagers, on a du confort, là, tant qu'on veut, avec des sièges capitaine de luxe à la deuxième rangée.
Ouais, ça, c'est la version que j'ai essayée. Moi, le modèle que j'ai essayé, c'est un 7 passagers avec les sièges capitaine. Puis effectivement, on a une configuration à la deuxième rangée au niveau des sièges qui est assez proche de celle des sièges à l'avant. Donc, on a un excellent confort. Question à 2 $, pourquoi il n'y a pas de moteur hybride dans le Carnival? On l'a du côté de la Sienna, entre autres, du côté de Toyota. Et on l'a du côté du Pacifica, qui a un modèle hybride. Est-ce qu'on va peut-être en avoir un? Est-ce que c'est dans les plans du côté de chez Kia?
Alors, c'est pas dans les plans chez Kia. Et pourquoi qu'on n'a pas été hybride avec Carnival? On a d'autres modèles, comme que tu sais, Benoît, avec moteur hybride, avec traction intégrale. Et on veut offrir internationalement une gamme de modèles. On veut dire qu'ils ne se nuira pas un à l'autre. Alors, okay. Si quelqu'un veut avoir une traction intégrale, veut avoir un moteur hybride, on a d'autres modèles. Et d'autres modèles nouveaux s'en viennent avec le moteur hybride parce que Kia est vraiment ciblé pour être une compagnie verte pour offrir le plus de véhicules hybrides, véhicules branchables et électriques d'ici 2025.
Puis pourquoi on a décidé chez Kia de poursuivre dans cette lignée-là? Parce qu'on le sait, là, les fourgonnettes, c'est pas le segment de marché qui est le plus en vogue en ce moment. Il y a d'ailleurs beaucoup de constructeurs qui ont littéralement abandonné le segment. Pourquoi Kia a dit, bon, ben nous, on y va, go?
Mais c'est un marché encore assez important au nord de l'Amérique. Alors, on sait comme que tu l'as conduit, tu lui donnes beaucoup plus de place qu'un DUS. Alors, la Carnival est vraiment ciblée à la famille qui veut aller faire du camping, du sport, une grande randonnée avec beaucoup d'espace, avec les beaux-parents, les enfants et la randonnée chez Rona le dimanche. Et c'est un marché aussi au Canada est très stable.
OK, donc, il y a en fait, puis probablement du fait qu'il y a un petit peu moins de joueurs au niveau des constructeurs, que ça donne un peu plus d'espace à ceux qui restent, j'imagine.
Exactement, et avec le Carnival, avec tous les modèles qu'on offre, du LX jusqu'au SX, on donne un très bon choix à nos clients.
Jean Furoy, tu me parlais tantôt des segments hybrides. Ça m'amène à la question des véhicules électriques. On a présenté, je pense que les gens qui suivent un peu l'automobile ont vu des photos du EV6 de Kia, qui est le prochain modèle électrique qui s'en vient. As-tu quelques détails sur ce modèle-là qui peut concerner le Canada, notre marché? Ça arrive quand? Est-ce qu'on est trop tôt pour parler de prix encore, parler d'autonomie? Qu'est-ce qu'on a comme information et de détails sur ce modèle-là en ce moment?
Alors, Benoît, j'ai quelques informations pour toi. Premièrement, le EV6 est wow. Design, le tape à l'œil, puis les véhicules électriques, c'est imposant. Mm-hmm. Alors, la nouvelle plateforme du EV6, c'est une plateforme internationale et on va pouvoir construire d'autres modèles sur cette plateforme-là.
OK.
Alors, je peux vous dire que le EV6, en ce moment, on cible avec une nouvelle batterie. Si on utilise le chargeur de 800 volts, on peut charger la batterie de 10% à 80% dans 18 minutes.
Oui, ça, c'est bon.
On veut avoir 100 km de plus, alors on arrête chez Petro-Canada. Ça prend seulement que 4 minutes. Et on parle d'une autonomie de 500 km minimum.
Ça, alors, c'est le...
En cycle mondial, oui.
Oui, en cycle mondial. Ça, c'est le WLTP. Là. Ça, c'est le cycle mondial qui, bon, est assez optimiste, pour être poli. Mais c'est 500 en cycle mondial. OK, parfait. Oui. Et chez nous, là, les gens là qui nous écoutent là, puis qui disent « Hey, c'est un véhicule qui m'intéresse. » Là, on peut... Y a-t-il un moment... Est-ce qu'on peut déjà le commander? Est-ce qu'on peut le commander bientôt?
Si on regarde le site kia.ca, il va y avoir de l'information bientôt.
Okay.
Au point de vue de vente, on n'a pas de date encore et aucun prix.
OK, donc on est trop vite. Est-ce que c'est, en principe, est-ce que c'est un modèle 2022 ou 2023?
Ça va être, que je sache, c'est un modèle 2023.
OK.
Est-ce qu'on sait si ça va remplacer soit le Niro ou le Soul, un peu comme... parce que là, chez Hyundai, il y a la Ioniq 5 qui arrive, puis qui déplace aussi la gamme. Est-ce que chez Kia, ça change un peu la gamme des autres produits à faire?
Non, ça ne change pas la gamme des autres produits, parce que vraiment, c'est un autre modèle totalement à part. Et on va construire d'autres modèles sur cette plateforme-là aussi. Parce qu'on veut élargir, on veut agrandir nos modèles.
Là, parle-nous un petit peu, Jean Furoy, de ce qui s'en vient. Parce que là, on le sait, la grande majorité des compagnies automobiles se sont fixées des objectifs électriques. Certains parlent de 2030, d'autres de 2035. D'autres disent on va faire notre dernier véhicule à moteur à combustion interne en 2025. Après ça, on va se consacrer au développement de hybrides et d'électriques. C'est quoi la situation chez Kia? On va vers quoi? Est-ce qu'on s'est déjà fixé des objectifs à ce niveau-là?
Alors, nos deux prochains modèles hybrides et hybrides branchables vont être le nouveau Sorento qui va arriver cet automne.
OK.
Et on promet à nos clients 7 nouveaux modèles rechargeables ou entièrement électriques d'ici 2025.
7 modèles, quand même.
Ah oui, quand même. Mmh. Donc, ça veut. Et ça, bon, 7, est-ce que c'est 7 à l'échelle nord-américaine ou 7 à l'échelle mondiale pour en avoir 2 au Canada?
Non. Que je sache, ça va être 7 modèles internationaux.
Ah oui, OK. Donc, à l'échelle internationale, OK. Ça ne veut pas dire que tous ces modèles-là vont arriver dans notre cours, là. Mais Kia va
comme en prendre... Comme que je peux te dire, moi, avec les informations que j'ai, je serais très surpris qu'on n'aurait pas les 7 modèles.
OK. Ah, mais quand même. OK. Donc, ça va venir assez rapidement.
Oui.
Donc, OK, c'est bon. Et question aussi que je me posais, au niveau des technologies, qui s'en viennent. Bon, on a de plus en plus parce que ta spécialité, Régent, c'est au niveau de la formation. Qu'est-ce que ça change au niveau d'une personne comme toi qui travaille à la formation de prendre le virage vers le partiellement ou le tout électrique? Je suis curieux de voir ça parce que c'est un changement pour toutes les compagnies automobiles, changement de mentalité, changement d'approche. Comment on affronte ça du côté de chez Kia?
Alors, une très, très bonne question, Benoît. Chez Kia, dans l'informatique, on parle de Kia Université au Canada.
Ouais.
Ça fait quelques années déjà qu'on a un curriculum complet pour certifier les techniciens, pour certifier les aviseurs techniques et les vendeurs du point de vue de technologie électrique.
OK.
Pour les techniciens, tous nos concessionnaires qui vendent des véhicules électriques, il faut qu'il y ait un minimum de 10 techniciens licenciés et certifiés en technologie électrique au point de vue sécurité, diagnostic, et on met ça à jour à chaque année.
OK, parce
et
que...
Et là, maintenant, on recommande à tous nos concessionnaires de certifier leur technicien.
Oui, parce que là, on n'aura plus le choix. Là. Il y a quelques années, c'était un modèle de temps en temps que pas tous les concessionnaires avaient. Sauf qu'avec tout ce qui s'en vient, simplement de mentionner qu'il va y avoir 7 modèles partiellement ou totalement électriques, là, ça veut dire que tous les concessionnaires vont en avoir et qu'il faudra suivre au niveau de la formation. Là. Donc ça, on s'en occupe du côté de chez Kia. Là.
Oui, définitivement.
Okay.
Et des cours qu'on donne virtuels, des cours en classe pour les techniciens aussi. On a des cours web. Alors, on a un curriculum très, très, très ciblé sur les modèles électriques.
Bien, Régent Furoy, merci beaucoup de ton temps. Ça a été très apprécié. Ça nous a donné une petite idée de ce qui s'en vient. Puis, quand oui. on aura d'autres informations sur Kia, on va te contacter.
Pas de problème, Benoît. Pour finir, je suis très content de t'avoir parlé. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu.
Ah, on a hâte de se voir, oui, pour que les gens le sachent. Quand on voyage, évidemment, nous, les journalistes, on rencontre des gens, des formateurs, des ingénieurs. Et Régent, évidemment, fait partie de ces gens très agréables qui doit être heureux, d'ailleurs, mon Régent, que le Canadien a gagné contre Winnipeg.
J'étais juste pour te dire, pour finir, Benoît, go Habs, go!
C'est ça! Ben, un gros merci, Régent. Puis, on se donne rendez-vous pour se reparler une autre fois. Alors, merci. Okay. C'était Régent.
Merci, Benoît, et prends bien soin.
Oui, merci. Toi aussi. Alors, Régent est directeur national de la formation chez Kia. Évidemment, on se connaît depuis un bon bout de temps. Vous l'avez deviné au ton bon enfant de notre entrevue. Nous, on va une petite pause et après, on revient avec nos essais routiers de la semaine.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Je vous rappelle qu'on peut écouter le balado Ça tient la route sur vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Apple, Google, sur le site du 98.5fm.ca dans la section balado et évidemment sur le site annuelauto.ca. On fait une mise à jour comme ça chaque semaine. Alors là, Alain, je vais essayer de prendre ma voix riche.
Oh!
Parce qu'on va parler d'un véhicule qui coûte cher. Mais non, avant de parler de mon Rolls-Royce Ghost, je vais te laisser la parole pour parler d'un véhicule que la plupart des gens qui écoutent peuvent s'acheter. Alors que le mien, on est dans le domaine du rêve.
Oui.
Et, mais bon, comme on fait un livre qui s'appelle L'annuel de l'automobile et qu'on parle de 275 autos par année, ben il faut toutes les essayer.
Faut hein, tous
les moi, c'est toujours la c'est défaite vrai. Que je donne. Puis bon, on a eu ça 48 heures. On s'entend, là, je ne suis pas promené toute la semaine avec ça.
De ben, toute moi, façon, t'as eu une belle semaine pour le faire.
Au prix que ça coûte, je vous parlerai de ça tantôt. Alors, exact. Je te laisse la parole. Parle-nous du Mitsubishi Outlander.
Oui, ben pour un paiement mensuel de un seul là, versement, probablement, de ce qu'une Rolls-Royce Ghost coûte, vous pouvez acheter le Mitsubishi Outlander, un pur produit de l'alliance Mitsubishi-Nissan-Renault, hein, faut le dire.
Oui.
En fait, si on veut tracer la filiation de ce modèle-là, il faut aller du côté de Nissan plutôt que de la génération précédente du VUS de Mitsubishi, puisque c'est de là que provient sa plateforme.
Oh ouais, c'est un Rogue, et plus, hein, soyons honnêtes. C'est la plateforme, le moteur et l'intérieur.
Ben exactement. Ce qui fait que de l'extérieur, c'est pas apparent que c'est le même véhicule qu'un Nissan Rogue, mais c'est à peu près la seule place où c'est. Où
oui, parce qu'une fois que tu t'assieds en dedans, tu dis « Hi! » C'est un Rogue, ça?
Mais heureusement, vu de l'extérieur, bon, premier coup d'œil, on voit la grosse calandre Mitsubishi, le logo, tout ça. Alors, on risque pas de les confondre sur la route. Parlant de route, le comportement routier de l'Outlander est certainement sa plus grande amélioration. Et il y en a plusieurs améliorations. C'est vraiment un modèle qui avait besoin d'être réfléchi.
On a étiré la sauce très longtemps du côté de Mitsubishi. Là. Il est à temps qu'on arrive à quelque chose de neuf.
Et on a fait, pour 2022, un modèle qui est plus un VUS, ou même un camion par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, ce qui serait un VUS plus urbain. Il y a beaucoup de fabricants qui font des VUS qui se comportent un peu comme une grosse berline, une grosse familiale au perché. Dans ce cas-ci, on a plus l'impression d'avoir un peu un truck, pour le dire bêtement comme ça. Bon, évidemment, il a le droit, entre autres choses, à une cylindrée de 2,5 litres qui est pas la plus puissante, mais qui est à aspiration naturelle. Ça change des moteurs turbo aussi, de véhicules qui sont un peu plus...
Exact. Et l'avantage, l'avantage, c'est parce que les gens me disent souvent, « Ah, t'as un vieux moteur. Il est pas si vieux que ça. »
Je n'irai pas jusqu'à dire ça.
Mais l'avantage, c'est que la fiabilité est reconnue et éprouvée. Et c'est des modèles qui ne vous laisseront pas tomber. En général, Toyota a la même approche avec des moteurs atmosphériques parce que on les connaît, on sait qu'ils vont bien et qu'ils ne vous laisseront pas tomber en chemin.
C'est une cylindrée donc qui fait 181 chevaux, ce qui n'est pas très puissant, mais surtout, et même avec ou sans turbo, peu importe, sur autoroute, elle ne consomme qu'un peu plus que 6 litres au 100 km. Si vous conduisez, tu sais, relax, là, ce qui est excellent, compte tenu du fait que c'est pas hybride ou il y a rien de
Non, exact. C'est un moteur à combustion interne, tout ce qu'il y a de plus normal.
Et qui est bien cadencé, qui est bien calibré. Et en moyenne, on obtient une consommation combinée, justement, ville et autoroute, là, d'environ entre 9 et 9 litres et demi au 100 km, selon comment vous conduisez. Ce qui, pour un VUS, qui est, j'aimerais dire, intermédiaire, pas mauvais du tout. Je dis intermédiaire parce que, à l'intérieur.
En fait, c'est un compact.
C'est un gros compact.
C'est un gros compact ou un petit intermédiaire, exact. Mais effectivement, parce que le Rogue, lui, se situe en haut du Qashqai, qui est un compact, puis en bas d'un modèle comme le Murano ou le Pathfinder,
exactement.
Qui est un peu plus grand, qui est le Pathfinder, qui est un vrai intermédiaire.
Ces véhicules-là grossissent toujours un petit peu à chaque renouvellement. Et dans ce cas-ci, on a ajouté une banquette à l'arrière qui est, on s'entend, là, c'est pas exactement
un
grand divan, là, mais c'est, au moins, il y a l'espace pour le faire.
Exact.
Pour revenir sur la mécanique, oublions pas que l'Outlander a droit au rouage intégral SAWC. Vous voyez comment c'est le fun à dire? SAWC, qui signifie Super All-Wheel Control. Qui fait que ce véhicule-là, justement, tu sais, tantôt je disais, c'est un peu plus un camion.
Exact.
C'est un rouage intégral qui est assez fun, qui est assez...
C'est un brevet de Mitsubishi en passant, ça, c'est cette...
Bon point, qui distingue la marque de ses partenaires et ses rivales, qui fait qu'il devrait bien se comporter, en fait, l'hiver, parce que là, évidemment, on est l'été, donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer dans la neige. Mais j'aurais pu aller dans le sable. J'aurais pu faire un petit peu de hard-piste. J'avoue que j'ai pas pensé à ça.
Peut-être, oui. C'est un bon test quand on n'a pas de neige. Le sable, surtout le sable meuble, là, tu sais, le sable de plage.
Ben, j'avais pas de plage à proximité, donc j'ai utilisé cette excuse-là. Au volant, ben, sur la route, en tout cas, on a l'impression de piloter un petit camion. Ça, je l'ai déjà dit, par opposition à une familiale au perché. La suspension est assez ferme. La direction est un peu lourde, mais pas trop. Tu sais, on a l'impression que c'est quelque chose, là. Il y a pas de surassistance. Souvent, c'est ce qu'on voit dans les directions des VUS plus familiaux, disons. On a aussi quand même pas mal d'espace pour les occupants à l'avant et sur la banquette. Et comme on le disait tout à l'heure, ceux qui veulent s'y risquer peuvent aussi opter pour une deuxième banquette dans le coffre. C'est risqué parce que, bonjour les genoux, ils vont être dans votre front. Cela dit, parce que c'est un signe quand même qu'il y a de l'espace dans le coffre, si on compare le volume utile en rabattant les dossiers de l'Outlander 2022 par rapport à son prédécesseur, on a un méchant gain. Le volume de l'édition 2022 est de 2256 litres d'espace utile contre 1727 à bord de la version précédente.
Ah,
c'est quand même assez important.
Ouais, faut dire que le toit est un peu plus haut aussi. Le véhicule est plus large. Ben, on gagne pas juste en longueur, on gagne en volume total au niveau du véhicule.
C'est un gros gain. Et c'est tout à l'honneur de Mitsubishi d'avoir utilisé les composants de inspirés de Nissan pour ça, parce que ça, définitivement, ça a un bénéfice tangible immédiat. À l'avant, le tableau de bord est assez intriguant, surtout les cadrans des versions plus équipées, là, où le régime moteur et la vitesse défilent de côté. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas des cadrans traditionnels avec une aiguille. C'est
vraiment
des espèces de grosses roulettes latérales, comme la grosse roulette dans The Price is Right. À la fin, là. Puis là, on tournait, puis on voyait, évidemment, c'est pas une loterie dans ce cas-ci, mais on voit vraiment défiler les chiffres à la verticale, ce qui est assez,
ce qui est assez intéressant. Différent, disons.
Et c'est dans l'air du temps, évidemment, c'est très moderne. C'est un écran, je pense que c'est de l'OCL, je ne suis pas sûr c'est quelle technologie, mais bon. Il y a aussi l'écran tactile de la console centrale, qui est la même que celle que Nissan utilise, qui a des boutons. L'ergonomie est irréprochable. Touchez plus à ça, laissez ça comme ça, il n'y a rien à dire. Il y a CarPlay sans fil et Android Auto. Donc, on peut jumeler son téléphone et avoir l'interface sans avoir à le brancher.
Qui n'était pas disponible dans ma Rolls-Royce de 461 000 $ en passant.
Alors, vous avez une exclusivité de luxe dans votre Mitsubishi, les amis. Absolument. Si jamais vous croisez une Rolls-Royce, vous pourrez leur dire. En tout cas, moi,
j'ai un sans fil, moi. pas besoin d'un câble pour le brancher, moi.
Exactement. Bref, écoute, bonne finition, insonorisée comme il faut. Oui. Tu sais, l'habitacle est confortable.
Je pense qu'on a bien profité du côté de Mitsubishi de l'alliance avec Nissan. Absolument. Pour amener un produit qui, somme toute, n'a pas coûté trop cher. On est capable de garder un prix réaliste. Et comme tu dis, on l'a habillé assez différent dehors pour que les gens devinent pas au premier coup d'œil qu'on a un Nissan Rogue.
Exactement.
On a un Nissan Rogue, mais apprêté à la sauce Mitsubishi.
Exactement. En fin de compte, le plus difficile, si vous regardez l'Outlander, ça va être de déterminer quel modèle va faire votre affaire. Il y en a 7 versions sur le site, donc c'est un peu compliqué. Ça l'a dit, c'est pas comme si on partait d'un prix très très bas et on se rendait à quelque chose de vraiment farfelu. Le prix est essentiellement entre environ 34 et 45 000 $.
Évidemment, Mitsubishi fait ça parce qu'on veut essayer d'aller tâter dans deux catégories. Fait que les modèles les plus équipés vont tendre à aller vers les intermédiaires, alors que les modèles de base vont tendre à aller vers les compacts.
Exactement. Il y a de l'équipement, mais il n'y a pas une grosse... Évidemment, la mécanique est la même, donc il n'y a pas de gros changements de ce côté-là. Ouais. Je pense qu'en bas de 40 000 $, il y a des bonnes options pour ceux qui cherchent un VUS pratique qui n'est pas trop suréquipé. Faut aussi aller voir du côté du Nissan Rogue ou peut-être attendre parce que, en principe, Mitsubishi fait partie de l'alliance Nissan-Renault parce qu'ils ont une technologie électrique branchable assez cool. Est-ce qu'on va avoir un Outlander plug-in dans un an ou deux?
Il y en a en Europe. Donc la logique voudrait qu'on l'amène chez nous avec une deuxième génération de batterie qui a une autonomie, si ma mémoire est bonne, qui tourne autour de 60 et quelques kilomètres.
Voilà.
Sait que le Outlander hybride branchable d'ancienne génération a connu beaucoup de succès.
Oui, ben exact.
Ça serait peut-être une bonne idée de l'amener. Ça, on pourra poser des questions au genre de Mitsubishi quand on trouvera quelqu'un pour en parler.
Oui, quelqu'un qui parle français, exactement.
Qui parle français et qui peut nous en parler.
Ça va être à suivre.
Ben merci, Alain.
Ça fait plaisir.
Moi, je vous fais rêver cette semaine. J'ai essayé un véhicule. Écoute, des Rolls-Royce, on n'essaye pas ça souvent. Mm-hmm. La dernière, j'ai regardé dans mes notes, parce que je me disais, quand est-ce que j'ai essayé ça? 2015, le dernier Rolls-Royce que j'avais essayé, c'était une Drophead.
Moi, je veux dire, j'avais un chauffeur en prime quand je l'ai essayé. Là.
Ah oui? Non. On me l'avait prêté. En fait, c'était un véhicule que j'avais eu de Rolls-Royce Montréal, qui n'était un véhicule officiellement de presse, mais il y avait un nouveau véhicule. Toujours pour le livre, parce qu'à un moment donné, si tu as une impression de conduite, faut bien le conduire.
Il faut savoir qu'il y a plus qu'une sorte de, il y a plus qu'un modèle de Rolls-Royce.
Voilà. Alors, le Ghost fait peau neuve pour 2021. L'ancien Ghost était basé sur une plateforme de Mitsubishi, de BMW série 7.
Ouais.
On a pris une nouvelle plateforme, en fait, qui est la plateforme du Cullinan, donc la plateforme du VUS.
Ah oui.
Qui sert aussi de base au Ghost, donc 5 mètres 6, c'est long, là, c'est énorme. Puis il y a même en Europe une version allongée du Ghost il rajoute, je pense, 13 ou 14 centimètres en arrière, où là, tu as besoin de ton propre code postal.
Mais
là,
il est déjà assez long en avant, en plus.
Il est déjà assez long. Évidemment, le moteur, c'est tradition oblige, c'est un 6,75 litres. Qu'on a légèrement augmenté parce que la tradition Rolls-Royce est jusque dans les années, là, il faudrait, s'il y a des amateurs qui m'écoutent, là, ne me battez pas, je sais pas la bonne année, mais jusque dans les années 50, les constructeurs automobiles n'étaient pas tenus de donner la puissance de leur moteur. Fait que du côté de Rolls-Royce, on disait toujours puissance suffisante. C'était comme le motus operandi du côté de chez Rolls-Royce. Et là, évidemment, pour ramener une tradition, parce que l'ancien V12, qui était un V12 BMW, faisait 6,6 litres. Oui. Là, on a augmenté à 6,75 litres. C'est un V12 biturbo qui fait 563 chevaux.
Est-ce que c'est le dernier V12 qu'ils vont produire? Ça se peut-tu?
Il y a des bonnes chances que ce soit le dernier V12 qu'on va produire, parce que là, évidemment, tout le monde parle d'électrification. Ouais, ben là, c'est ça. Et bon, Rolls-Royce profite des avancées technologiques de BMW pour les glisser dans ses voitures. Donc, la recherche se fait du côté de chez BMW. Ce que je peux vous dire, ça prend un bon budget d'essence. Hein?
Ah oui.
Le monsieur il a été faire quelques petits tours. J'ai fait l'équivalent d'à peu près 300 km avec le véhicule pour mettre 125 $ de gaz. Oh. Évidemment, comme diraient les anciens, ça marche au rouge, ça. Hein? On met pas de jaune là-dedans. Là.
Une voiture qui est super.
Oui, du 87 dans ça, là, la pompe se ferme quand t'arrives. Tu sais, genre, hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça qu'il veut là. Alors, mais bon, il faut parler du confort, parce que c'est la raison pourquoi on va acheter ce véhicule-là. Écoute, le V12 est tellement silencieux que tu as pratiquement l'impression de conduire un véhicule électrique. Là. En fait, les gens chez Rolls-Royce ont travaillé tellement fort que les premiers résultats disaient, écoutez, c'est presque épeurant parce que là, on n'entend rien dans l'auto.
C'est inquiétant.
Fait que là, on a rajouté un peu de bruit de moteur, un peu de bruit de porte qui se ferme. C'est des portes qui ferment là, doucement. Ah oui, là, qu'on amène la porte et elle se ferme seule. Même chose avec le coffre. Moi, j'avais 118 000 $ d'options dans mon véhicule. OK?
Ça vient dans une mallette avec
Oui, c'est ça. 343 000, ça, c'est le prix de base. Okay. Et mon véhicule, avec les options, t'as 461 000 $. Un système de son, 10 000. Le ciel étoilé, là, avec les 850 étoiles et le logo Ghost, là.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça.
5165 $. Il y a l'ensemble Ghost Premium, là, qui est 32 000 $, qui était dans le véhicule, avec, entre autres, des tapis en agneau, des tapis en laine. Là, écoute, t'enlèves tes souliers quand t'embarques dans cet auto-là, là, tellement c'est beau.
Ah oui. Le confort, c'est que tu veux pas la saler.
Ben, c'est ça. Là, l'intérieur est pâle. C'est du beige cassé là avec des... Puis le monogramme Rolls-Royce en mauve, ça, c'est 1974 $. C'est le même prix si tu le veux en orange ou en bleu. Là. Si tu le veux, c'est 1974 $. Là, j'en nomme quelques-uns. Ah, l'horloge en avant, il y a une belle horloge qui est faite par un... j'oublie le nom, mais un horloger réputé, c'est 6000 $.
Oh.
Bon, il y en a comme ça, un puis un autre. Tout ça pour dire que sur la route, il y a un système d'amortisseurs dans les amortissements. Pour donner une idée, là, puis c'est pas une blague, c'est que le système fonctionne en trois temps. D'abord, tu as la direction, ça s'appelle le Planar Suspension System. Le premier élément s'appelle le flag bearer, porteur de drapeau. C'est en l'honneur en Angleterre à l'époque où les premières voitures étaient sur la route. Il fallait qu'il y ait quelqu'un en avant de la voiture avec un drapeau pour signaler aux gens qu'il y avait une voiture sur la route.
Ah
on
bon?
A nommé le système en l'honneur de cette personne-là. Il y a la suspension pneumatique qui s'ajuste. C'est un 4 roues motrices. Et ce système-là détecte les imperfections de la route via satellite, transmet ça à la transmission automatique.
Par satellite.
Oui, oui.
Wow.
Absolument. Non, c'est fou raide, là. Et ça prépare la voiture pour la route que tu vas rencontrer. Écoute, je suis allé sur mes routes habituelles, là, les plus défoncées, pour réaliser qu'effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez acheter ce genre de véhicule-là. Mais bon, ça prend les 460 000 $ au départ.
Ouais.
Et c'est pas pour tout le monde, mais on en a vendu une trentaine l'année passée à Montréal. À Montréal! Alors, il y a quand même des gens pour l'acheter. Voilà, c'est tout. Merci Alain d'avoir été là. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai un Dodge Durango Hellcat pour vous. Alors, bonne semaine à tout le monde. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On va avoir encore d'autres informations pour vous. Bye-bye.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.